Nous allons retourner à l'Ancien Testament. Nous allons parler de David, justement. Mais là, nous allons voir la fin du règne de David avec le premier livre des Rois. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas habitué à la façon dont nous procédons, nous étudions la parole de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par tous les livres et par tous les versets, pensant que toute parole est inspirée par Dieu et utile pour nous instruire, pour nous équiper, pour nous reprendre, pour nous réconforter, pour nous encourager. Ça, c'est 2 Timothée 3,16 où Paul le disait. Et dans certaines églises, on évite de parler de l'Ancien Testament parce que c'est tellement vieux. On est quand même à l'époque de l'électronique, des ordinateurs, des téléphones portables, des smartphones, des téléphones intelligents, des iPads. Et là, on va aller parler de choses qui se sont passées il y a plus de 3000 ans. Mais comme on dit en français, plus ça change et plus c'est la même chose. Plus ça change, plus c'est la même chose, pas au niveau de la technologie, mais au niveau du caractère de l'homme. Parce que l'homme sans Dieu reste malheureusement égal à lui-même. Nous sommes tous des êtres nés dans le péché et nous avons en nous cette vieille nature de pécheur. C'était vrai pour le roi David, c'est vrai pour vous et moi aujourd'hui. Et la Bible a été inspirée, Dieu l'a confiée, il a confié les oracles de Dieu à des hommes qui ont, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit ces vérités. Ce qui est très important, encore une fois, c'est de comprendre la vérité qui est dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des simples récits, ce sont des instructions pour nous sur qui la fin du temps, la fin des temps est arrivée. Paul disait lui-même dans 1 Corinthiens 10, 6, en parlant des patriarches, des pères, de Moïse, de tous ces hommes de l'Ancien Testament, qu'en fait leur vie c'était des exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 1 Corinthiens 10, 6. Il dit plus loin, cela... Toutes les aventures qui sont décrites leur est arrivée à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, pour nous pour qui la fin des siècles est arrivée. L'Ancien Testament, vous pouvez vous y plonger aussi bien que dans le Nouveau Testament et recueillir des vérités, la vérité qui transforme vos vies, qui va vous permettre d'être réconcilié avec Dieu. Nous allons commencer donc dans ce premier livre. Et juste avant, je vous rappelle que Dieu avait une situation, ce n'était pas un problème, il devait faire un choix. Dieu, après avoir donné les oracles, après avoir révélé au prophète sa parole, a vu que les hommes savaient que les hommes n'allaient pas recueillir cette parole comme vérité complètement et même très partiellement, et donc il a décidé de venir en personne dans la race humaine, un peu comme si vous étiez le créateur des fourmis qui sont par terre et que vous décidiez qu'elles ne comprennent rien à ce que vous essayez de leur transmettre et vous décidiez vous-même de devenir une fourmi pour aller leur dire de l'intérieur, d'égal à égal, entre guillemets, comment il faut vivre. Et Dieu avait décidé de venir s'incarner dans la race humaine en la personne de son Fils, Jésus-Christ. Mais il avait une décision à faire, c'était où atterrir dans la race humaine. On a pris l'avion, on a pris beaucoup d'avions, ces quelques jours, et à chaque fois, le pilote trouve un aéroport pour se poser. Et Dieu a choisi un homme, Abraham. Il a décidé de prendre cet homme qui était un païen, qui vivait en Chaldée, à Ur des Chaldéens, ou Ur, U-R, c'est un mot qu'on trouve souvent dans les mots croisés. Ur, U-R, c'était une ville de Babylone, une ville des Chaldéens. Et Abraham était né dans une famille païenne qui adorait les étoiles, qui lisait les horoscopes. Peut-être vous êtes né aussi dans une famille païenne où on lisait les horoscopes. Et à partir de cet homme, il a créé un peuple, le peuple juif. D'abord, Abraham a eu Isaac et puis Jacob. Et Jacob a eu 12 enfants qui ont fait les tribus d'Israël, qui ont commencé les tribus d'Israël. Ils ont habité 400 ans en Égypte. Puis après, il y a une époque qui est décrite où, sous la direction de Moïse, puis de Josué, le peuple est allé en terre promise. Là, pendant 400 ans, ils ont vécu avec Dieu comme roi. Ils utilisaient simplement des juges qui les aidaient à se diriger. Il y a eu un cycle où les juges sauvaient le peuple confortable retournait dans le péché, et Dieu devait utiliser la punition de l'esclavage par d'autres peuples avant que le peuple lui-même se retourne vers Dieu, et Dieu envoyait un autre juge, et ainsi de suite. Et puis dans le récit de 1 et 2 Samuel, on a vu une période qui couvre à peu près une centaine d'années, on voit le début de la royauté en Israël. Les juges, sous la période des juges, chacun faisait ce que bon lui semblait, et puis les Israélites ont voulu faire comme tout le monde, ils ont voulu avoir un roi, comme les peuplades voisines. Dieu leur a donné d'abord Samuel, qui s'est révélé être un mauvais roi. Puis il a suscité David et il lui a promis un trône qui durerait pour toujours. Aujourd'hui, il n'y a plus de trône en Israël, mais David, c'est une préfiguration du roi qui va régner pour toujours, Jésus-Christ lui-même. Et David, on a toujours cette image du jeune homme plein de courage qui, d'un seul coup de pierre, a tué le géant, quelqu'un qui était plein de force, de vigueur, qui était aussi un homme selon le cœur de Dieu, qui a écrit la plupart des psaumes, un homme qui avait une grande intimité avec Dieu. Et là, on arrive à la fin de sa vie. Tout à l'heure, on a chanté « Qu'il revienne ou qu'il me rappelle, je tiendrai ferme en Jésus-Christ. » Nous sommes tous appelés à mourir physiquement, à moins que le Seigneur ne revienne avant ce moment de notre mort. Mais ça, c'est quelque chose qui doit vraiment influencer nos choix, notre façon de penser, comme le rappelait Manuel la semaine dernière. Michael Jackson organisait sa grande tournée mondiale. lorsqu'on lui a fait, sans doute à sa demande, une piqûre pour mieux dormir, et il ne s'en est pas remis. Il est mort. On peut être tellement pris par les préoccupations quotidiennes, les soucis de la vie, les attentes, les joies. Mais tant qu'on n'a pas compris qu'on est appelé à mourir un jour, et ça pourrait être à n'importe quel moment, ça pourrait être aujourd'hui, on ne va pas savoir comment vivre. On va brûler la vie par la chandelle par les deux bouts, comme on dit. On va manquer de sagesse, parce que nous sommes tous appelés à avoir un rendez-vous avec notre Créateur. Et si nous ne sommes pas venus à lui, si nous n'avons pas accepté son sacrifice, si nous n'avons pas compris que nous avons besoin d'être sauvés, alors nous serons perdus pour toujours, séparés de Dieu pour l'éternité. Lisons ensemble 1 Rois, chapitre 1, verset 1. Or, le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour monseigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Ainsi monseigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tous les territoires d'Israël une belle jeune fille et l'on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on fit venir auprès du roi. Cette jeune fille était vraiment très belle, elle soigna le roi et se mit à son service, mais le roi ne la connut pas comme femme. On arrive donc à la fin. Juste une petite parenthèse, on n'est pas sûr de l'auteur de ce livre des rois. Certes, une traduction juive rabbinique dit que c'était le prophète Jérémie. C'est aussi intéressant de noter que 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois décrivent l'histoire d'Israël, et que dans certaines vieilles versions ou traditions, on parlait de l'histoire 1, de l'histoire 2, de l'histoire 3, de l'histoire 4. Plus récemment, les premiers et deuxièmes livres des rois n'étaient qu'un seul ouvrage. C'est les sages qui ont écrit, traduit la Bible de l'hébreu en grec à Alexandrie, ce qu'on appelle la version de la Septuagint, parce qu'ils étaient 70 sages de façon supposée, qui ont séparé ces deux livres. Et on pense que peut-être c'était une raison toute bête, c'était parce que c'était trop long pour la taille des formats A4 de l'époque. On avait des rouleaux de parchemin, et on pense qu'ils ont dû couper le texte entier en deux. Le roi David était vieux, avancé en âge. Il avait en fait 70 ans, et d'après le récit, il a l'air encore plus fatigué qu'un homme de 70 ans de son époque. Vous vous souvenez que Moïse, par exemple, n'avait que 80 ans lorsqu'il a commencé son ministère. On pense que il avait vécu une vie très remplie, David. Il avait fait tellement de choses, il avait tellement fui devant le roi Saül, pris le pouvoir, il avait une vie très remplie. Mais il y a un problème, parce qu'il est faible, il est malade, il n'arrive plus à se réchauffer. On le couvrait de vêtements, et ça, c'était pas un bon signe pour un roi. Il n'avait pas pris sa retraite à 67 ans, il était encore à 70 ans, il va rester encore sur le trône quelques années, ou quelques mois avec un de ses fils, nous allons le voir. Et là, on lui prescrit un remède qui peut paraître un peu bizarre, même un peu immoral. En fait, quand on recherche les récits médicaux de l'époque, il y avait un docteur galien, dont vous avez peut-être entendu parler, qui recommandait que, comme ça, on devait transférer la chaleur d'un corps jeune vers un corps vieux. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui encore, quand vous allez faire de l'exploration en montagne, il y a un grand danger, c'est l'hypothermie. Et je me souviens, il y a quelques années, à Seattle, en famille, avec la famille de Nancy, on a été faire du camping dans la neige. On avait été creuser des cavités, des igloos. Alors c'était plutôt creusé que bâti en forme d'igloo, comme on les voit sur les photos d'Esquimaux, des crèmes glacées. Et quand on passe une nuit sous la glace, comme ça, sous la neige, la chaleur de votre respiration fait fondre la neige et vous retrouvez le matin sur de la glace. Et on avait regardé ensemble un film sur les dangers de l'hypothermie. Et en fait, le meilleur remède à l'hypothermie, lorsqu'on récupère quelqu'un qui est gelé comme ça, c'est effectivement de le mettre avec quelqu'un en bonne santé qui est chaud, parce que la chaleur va se communiquer sans être excessive. Si vous mettez des mains glacées dans de l'eau chaude, vous risquez de vous faire d'abord très mal, c'est très douloureux, et en plus vous risquez de faire éclater des vaisseaux sanguins, c'est pas un bon remède. Alors c'est vrai qu'on les personnes cherchent une jeune femme, et tant qu'à faire, pourquoi pas, c'est le roi, on trouve la plus jolie fille du royaume, une jeune femme qui s'appelle Abishag, qui vient de la ville de Sunem. Vous avez peut-être lu le Cantique des Cantiques, dans lequel il est question de la Sulamite, pas de la Sunamite, même si elles étaient toutes les deux comme de la dynamite. Mais il n'y a aucune raison de penser que c'était la même personne, parce que pour nos oreilles occidentales, Sulam et Sunam, c'est pratiquement la même chose. Mais en hébreu, les consonnes forment la racine des mots et c'est vraiment pas le même endroit. Elle devient donc la concubine du roi. Quelle était la différence entre la concubine et une femme? C'est qu'une concubine n'avait pas droit à l'héritage de la personne, ni ses enfants. Et là, il est dit qu'en fait, elle n'a pas eu de relation sexuelle avec le roi, ce qui était peut-être une façon de dire qu'il ne tenait pas à en avoir, ou peut-être qu'il ne pouvait même pas en avoir. Ce qui serait un signe inquiétant pour le peuple de savoir c'était un test à l'époque de savoir si un roi n'était pas en mesure d'avoir des enfants, c'était qu'il avait passé la date de péremption. Il était trop âgé. On verra qu'elle devait être la concubine du roi, qu'elle avait dû être officiellement reconnue comme concubine, parce que plus loin, on verra qu'un de ses fils va provoquer sa propre mort en essayant d'épouser cette jeune femme. Lisons ensemble verset 5. Adonia, le fils de Haggith, élevait des prétentions en disant « C'est moi qui serai roi ». Il se procurera un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Jamais sa vie durant, son père ne lui avait fait un reproche ou ne lui avait dit « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonia était en outre fort beau à voir et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruya, et avec le sacrificateur Abiathar, et ceux-ci se rallièrent à Adonia. Mais le sacrificateur Tsadok, Banayahu, fils de Yehoiada, le prophète Nathan, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent pas avec Adonia. Adonia sacrifia du petit et du gros bétail ainsi que des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté de Ein Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi et tous les hommes de Juda, serviteurs du roi, mais il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benayahu, ni les vaillants hommes, ni son frère Salomon. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonia, fils de Haggith, est devenu roi et que notre seigneur David ne le sait pas ? Viens donc maintenant, je vais te donner un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. » Arrêtons-nous ici. Savons que le roi David a eu beaucoup d'enfants et en particulier il a eu des enfants, il a eu l'épée, vous vous souvenez, après son péché avec Bathsheba, cette belle jeune femme qu'il avait vue se baigner, avec qui il avait eu des rapports sexuels et un premier enfant qui était mort. Le roi David avait été confronté par le prophète Nathan, qui lui avait dit une très jolie parabole d'un homme qui avait plein de bétail, mais qui avait été volé la petite brebis d'un homme qui n'avait qu'une petite brebis. Et la colère du roi David s'était enflammée contre cet homme, et c'est alors que Nathan lui avait dit « Tu es cet homme, tu es l'homme dont je parle ». Et la réaction de David avait été une réaction de repentance, de repentir. Il avait demandé pardon à Dieu et il avait connu le pardon de Dieu. Mais il avait dû vivre avec les conséquences de son péché. Comme il est dit dans la parole, l'épée ne s'est point départie de sa famille. La mort et la violence est entrée dans la famille du roi David, à tel point qu'un de ses fils, Absalom, a tué Amnon. Et puis que Absalom a voulu prendre le pouvoir du roi David, il avait d'ailleurs devant tout le peuple d'Israël, il avait pris les concubines de son père et avait couché avec elles pour montrer qu'il était maintenant le roi. Et c'est le général de David, Joab, qui l'avait exécuté, qui l'avait mis à mort. Il s'était fait prendre la tête, vous le souvenez peut-être, par ses longs cheveux dans les arbres. Sa mule avait continué, mais lui était resté suspendu par les cheveux. Et maintenant, c'est le quatrième fils de David, dans l'ordre d'âge, le plus âgé, qui restait. Il y avait eu un autre fils dont il n'était pas question dans la parole, on pense que ce fils avait dû aussi mourir très jeune, chez Léab, je crois. Et Adonia est le fils de Haggith, sa maman, qui était une des nombreuses femmes de David. Là, il élève des prétentions, il s'exalte. Il dit, c'est moi qui serai roi. Alors, il se procure un char, des cavaliers, 50 hommes qui couraient devant lui, un peu comme les agents des services secrets courent devant la voiture du président, même en France. Première manifestation d'un président élu, c'est de descendre les Champs-Élysées à pied ou bien en voiture, avec des chevaux qui claquent leurs talons, leurs sabots plus exactement, sur le macadam ou sur les pierres, les pavés de l'avenue des Champs-Élysées. C'est une façon d'authentifier, de passer une cérémonie de prise de pouvoir. Et donc, c'est ce que fait ce fils de David, Adonia. Mais c'est intéressant parce que si on regarde dans 2 Samuel 7, au verset 12, Dieu parle à David pour lui dire qu'il ne doit pas bâtir un temple pour lui, qu'il a trop combattu, qu'il a trop de sang sur les mains. Et il dit au verset 12, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. » Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. » Quand Dieu dit ça à David, Adonia est déjà né. Et là, il parle d'un fils au futur qui va naître. C'est le roi Salomon. Il en est question dans 2 Samuel 12, verset 24. après la mort de son premier fils qu'il avait eu avec Bathsheba, David consola sa femme Bathsheba, il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. David le remit entre les mains du prophète Nathan et on lui donna le nom de Yedidia à cause de l'Éternel. Ça veut dire chéri de l'Éternel, un très beau prénom qu'on n'utilise pas souvent, mais je vous le recommande. Béni de l'Éternel. Et donc, c'était ce... On verra plus loin que la maman de Salomon, Bathsheba, fait allusion au serment que son père aurait fait à Salomon de lui succéder sur le trône. Mais une chose est sûre, c'est que Adonija, il essaye de prendre le pouvoir. Il sait qu'il n'est pas nommé. Il pense peut-être qu'en tant que plus âgé de la famille, des fils qui restent, il devrait avoir ce droit. Mais à l'époque, les rois n'avaient pas ce qu'on appelle la règle de primogéniture. C'est-à-dire que ce n'est pas le plus ancien fils qui prend automatiquement le trône. Aujourd'hui, on peut voir des listes qui doit succéder à la reine d'Angleterre. Normalement, le prince Charles, et puis après, les héritiers du prince Charles. En France, il y a une bataille pour savoir si la royauté revenait en France, qui serait le roi ? Un héritier des Bourbons, comme en Espagne, ou bien un héritier de la maison d'Orléans ? Ça, c'était le comte de Paris, je crois qu'il est de cette famille. Il y a une controverse aussi en France, peu importe de toute façon. Mais là, Adonija sent qu'il, c'est le moment ou jamais, le roi est faible. Et on a un commentaire très fort sur les mauvais dons de père de David. Jamais sa vie durant, son père ne lui avait fait un reproche. Ne lui avait jamais demandé pourquoi il faisait telle ou telle chose. Il était beau, agréable à voir, mais son père était tellement occupé par ses exploits guerriers, par son royaume, qu'il négligeait sa maison. On a vu déjà l'exemple de son fils Absalom qui a voulu prendre le pouvoir lorsque Joab l'a tué. Il est entré dans un deuil terrible. « Oh Absalom, Absalom, mon fils !» Et ça, c'est pour les papas parmi nous. Les papas présents et les futurs papas. De ne pas négliger l'éducation de nos enfants et notamment en négligeant la correction. On vit dans une société où la punition, la correction, c'est considéré comme rétrograde, comme quelque chose du passé, de cruel, qu'aujourd'hui on peut discuter avec nos enfants, raisonner avec eux. La Bible nous dit que celui qui ménage le bâton pourrit son fils. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans la colère où on se défoule sur son enfant des problèmes qu'on a eus dans la journée au travail, le patron qui nous a remis en place, etc. Mais ne pas corriger un enfant, c'est très mauvais. Et aujourd'hui, on en arrive à des situations complètement aberrantes. On a la maman de Ludovic qui est responsable, pour ceux qui le connaissent, qui est responsable d'une crèche à Nice, qui nous racontait comment des enfants de 2 ans, lorsque la maîtresse se met devant eux pour leur parler face à face et leur expliquer que ce qu'ils font n'est pas bien, que ces enfants de 2 ans donnent des coups de tête, un coup de boule. trouve ça drôle, mais c'est vraiment triste. On a vu en étudiant Romains qu'un des grands péchés, dans la liste des grands péchés, ils ne sont pas plus grands ou moins importants, mais c'est un péché très sérieux noté dans la Bible, c'est la rébellion envers les parents. Pourquoi c'est si grave? Parce que la rébellion envers les parents, c'est avant tout une rébellion envers l'autorité. Ça veut dire que quand l'enfant va grandir, il ne respectera pas ses maîtres, il ne se soumettra pas à ses instituteurs, à ses professeurs. Lorsqu'il commencera dans la vie active, il ne se soumettra pas à ses patrons. Une époque où on passait par l'armée, le service militaire, où les sergents étaient chargés de mater ces rebelles, quelque chose qui manque beaucoup à notre société. Mais le résultat pour Adonia, c'est qu'il était, il n'avait pas de limite. Jamais son père ne lui avait fait un reproche. Alors je sais que parmi nous, il y a des mamans qui ont des enfants et le papa est peut-être absent. C'est difficile, mais vous pouvez exercer l'autorité parentale, vous pouvez faire des reproches, les reprendre vos enfants. Nancy était complètement étonnée quand on est arrivé en France. Elle s'était investie dans les groupes de parents d'élèves et il y avait cet homme qui disait, mais je ne sais pas quoi faire avec ma fille, elle ne veut pas travailler, elle fait que ce qui lui plaît. Et Nancy disait, mais vous ne pouvez pas, elle écoute, vous dites qu'elle écoute toujours la télévision dans sa chambre, pourquoi vous ne lui enlevez pas la télévision? Oh, il n'avait jamais pensé à ça. Donc en fait, la discipline avec les enfants, c'est plus un principe. Et encore une fois, c'est parce que la Bible nous le dit. C'est pas parce qu'on est cruel et qu'on se dit, tiens, on va exercer une autorité de despote sur des petits êtres qui ne peuvent pas nous résister physiquement. Non, c'est le bon sens. Quelqu'un nous disait que les psychologues qui ont fait des expériences avec des enfants qui ne sont pas corrigés, les enfants n'osent pas aller vers le territoire qu'on leur a donné, qu'on leur a assigné. Par contre, s'ils ont l'habitude d'être, si on met des bordures, si on met des limites, ils vont pouvoir explorer tout le territoire qui leur est confié. C'était Jacques qui nous parlait de ça à la montagne, vous vous souvenez peut-être. De la même façon, Adonia, lui, il n'avait pas de limite. Et puis, il est dit qu'il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruya, avec le sacrificateur Abiathar, et ceux-ci se rallièrent à sa cause. Mais il prend soin d'éviter certaines autres personnes, le sacrificateur Tsadok, le fils de Yehoyadab, Yahyadou, le prophète Nathan, Shimei, Rei, et les hommes fidèles à David. On verra aussi que il ne va pas aller voir son frère Salomon. Il ne va pas l'inviter à son couronnement, à son investiture, on dirait aujourd'hui. Et ça, c'est un problème qu'on peut tous avoir lorsque, en fait, on dit rechercher le conseil, mais on va chercher le conseil de ceux qui vont être d'accord avec nous. Et on ne peut pas s'attendre à avoir un conseil juste, réel, équilibré et sage et biblique si on choisit les personnes en excluant certaines. On sait que ce qu'ils vont nous dire n'est pas bien, mais on va chercher celles qui vont dire « Oh, c'est pas grave ». Ça, je crois que tous, on est tentés par ça. Surtout lorsqu'on fait quelque chose de... un péché ou une situation qui dure et qui perdure, on va aller voir les gens qui vont nous dire « Oh, tout le monde le fait, c'est pas grave, c'est notre époque, on vit en France au XXIe siècle. Il faut pas être... littéral, la Bible contient la vérité, mais n'est pas toute la vérité. Il faut mettre un peu au goût du jour. les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est normal, c'est bien, c'est sain. La Bible, d'accord, mais il faut pas. Pierre est un peu vieux jeu, qui nous dit que c'est pas bien. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole. Alors si vous vous dites où est-ce que ça se trouve, dans 2 Corinthiens 7, il est dit que si quelqu'un brûle de désir, qu'il se marie, pas qu'il se trouve une petite amie ou un petit ami. Adonia, il fait la fête avant d'avoir gagné la bataille, en espérant qu'il va pouvoir ainsi court-circuiter la bataille. Il fête la victoire, un peu comme les hommes politiques qui, le soir des élections, font couler le champagne alors même que les résultats sont incertains. C'est un peu une espèce de... Ils veulent conjurer le sort, ou ils espèrent qu'en agissant comme s'ils avaient gagné, ça va influencer les choses. Mais en fait, il sacrifie du petit et du gros bétail, ainsi que des veaux gras. Il fait la fête avec un aspect religieux, ce qui est d'autant plus détestable, c'est que il utilise la religion à ses fins personnelles. Et là aussi, c'est un avertissement pour nous de ne jamais faire une telle chose, de ne jamais utiliser des prétentions religieuses ou donner l'impression qu'on aime Dieu pour en fait avancer nos motivations égoïstes personnelles, que ce soit pour gagner le cœur de quelqu'un, que ce soit pour forger des relations commerciales. Certains viennent à l'église pour former ici moins qu'en certains pays, notamment les États-Unis, où en fait l'église c'est un lieu de relations sociales. Et on se moque de savoir qu'on vient chanter Dieu ou pas. On vient là pour des raisons sociales. Il n'a pas invité Nathan, le prophète Nathan, qui avait repris David. Et Nathan va voir la mère de Salomon, Bathsheba. Et là aussi, c'est un signe de la grâce de Dieu. Salomon, c'était le fils d'une relation avec cette femme illégitime au départ, Bathsheba, qui avait commis l'adultère, plus exactement c'est David qui avait commis l'adultère avec elle. Elle avait perdu son premier enfant, le roi était inconsolable, mais pendant la maladie de l'enfant, mais lorsque l'enfant était mort, il avait repris ses esprits. Et puis le roi Salomon était né de cette union. Et voilà qu'en fait Dieu va choisir Salomon pour lui donner un royaume qui va durer toujours. Le royaume de David va se continuer par Salomon. Et puis, de façon ultime, c'est Jésus-Christ qui va siéger pour toujours sur le trône de David. C'est le vrai David, en fait. Et à l'époque, lorsque il y avait un conflit entre des dynasties ou qu'il risquait d'y avoir une prise de pouvoir, pour éviter que la famille de celui à qui on avait pris le pouvoir ne cause des ennuis par la suite, on éliminait purement et simplement la famille. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode de Méphibosheth, qui avait peur du roi David parce qu'il descendait de la famille de Saül, qui c'était un héritier de Jonathan. Et qui se cachait parce qu'il avait peur que si des hommes de David venaient le trouver, c'était pour le mettre à mort. On dit même qu'à l'époque, lorsqu'un roi prenait le pouvoir et qu'il se débarrassait d'une autre dynastie ou de d'autres membres d'une famille qui avait des prétentions au trône, non seulement il éliminait, faisait exécuter tous les membres de cette famille, mais il faisait même des fois, ils utilisaient leur peau pour faire des sièges, des canapés. Donc c'était le canapé d'IKEA avec la peau de votre ennemi politique. Ça sera intéressant dans la vie politique française, ça. Viens t'asseoir sur un tel ou sur une telle. Et donc, Nathan sait que il faut que la reine Bathsheba sauve sa vie et la vie de son fils Salomon. Il sait que Adonia va prendre le pouvoir, essaye de prendre le pouvoir, et que s'il le prend, il va éliminer toute la famille. Verset 13, « Va, entre chez le roi David, et tu lui diras, « Ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas fait un serment à ta servante en disant, « Ton fils Salomon régnera après moi, et c'est lui qui siégera sur mon trône. Pourquoi donc Adonia régnerait-il ? Voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entendrai moi-même après toi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. » Ils se mettent d'accord pour aller voir le roi et lui présenter la situation. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Or, le roi était très vieux, on le savait, et Abishag, la Sunamite, était au service du roi. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit, « Monseigneur, tu as fait ce serment à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant de ton fils Salomon, « Il régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône. » C'est le seul endroit où on le trouve ce serment tel quel, mais on a toutes les raisons de penser que c'était un serment qui avait été absolument fait par David, vu les passages qu'on a lus dans 2 Samuel 7-12, 2 Samuel 12, 24 et 25. Or, maintenant, voici qu'Adonia règne, et maintenant tu ne le sais pas, roi, mon Seigneur. Il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et du petit bétail en quantité. Il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Et toi, le roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui déclares qui siégera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, une façon de dire, lorsqu'il sera mort, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici qu'arriva le prophète Nathan. On l'annonça au roi en disant, « Voici le prophète Nathan. » Il arriva en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Ensuite, Nathan dit, « Ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, « Adonia régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône ?» Car il est descendu aujourd'hui, il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et du petit bétail en quantité. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, le sacrificateur Abiathar. Les voici qui mangent et boivent devant lui et qui disent « Vive le roi Adonia !» Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benayahu, fils de Yehoyada, ni ton serviteur Salomon. Est-ce bien de par mon Seigneur le roi que cette affaire a lieu et sans que tu aies connaissance et fait connaître à ton serviteur qui siégera sur le trône du roi mon Seigneur après lui ?» Le roi David répondit « Appelez-moi Bathsheba !» Il l'a fait revenir, elle entra devant le roi et se présenta devant le roi. Alors le roi fit un serment et dit, « L'Éternel est vivant, lui qui m'a libéré de toute détresse. Ainsi que j'en ai fait le serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, « Ton fils Salomon régnera après moi et siégera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre, se prosterna devant le roi et dit, « Vive à jamais, mon Seigneur le roi David. » Il semble que le roi David reprenne un peu de vigueur, d'énergie lorsqu'il est question de cette affaire, de ce trône, de cet usurpateur qui veut prendre son trône au lieu de Salomon à qui David avait promis de lui succéder. Le roi fait un serment qu'il va régler les questions, je vais m'en occuper aujourd'hui même. Verset 32, le roi David dit alors, « Appelez-moi le sacrificateur de Tsadok, le prophète Nathan et Benayahu, fils de Yehoyada. » Ils entrèrent en présence du roi. Donc ça, ce sont les personnes qui n'avaient pas été invitées, qui supportaient la candidature ou la succession par Salomon. Le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur, faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guion. » Là, le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez du cor et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Vous monterez derrière lui, il viendra siéger sur mon trône, et c'est lui qui régnera à ma place. Je l'ai établi conducteur d'Israël et de Juda. faites monter mon fils Salomon sur ma mule. Ça fait sourire un peu parce qu'on n'a pas dans notre culture une haute opinion des mules. Une mule, c'est le produit de l'union d'un âne et d'une jument. À pas confondre avec ce qu'on appelle un bardeau, comme Brigitte, qui est le produit d'une ânesse et d'un cheval mâle. Pourquoi est-ce que les mules étaient si prisées en Israël ? C'est parce qu'elles étaient rares. Elles étaient très rares. En fait, il était interdit dans la loi de créer des hybrides entre les espèces, entre les ânes et les chevaux. Et ça veut dire qu'en fait, si une mule se trouvait en Israël, c'est qu'elle venait de l'étranger. C'était comme une voiture d'importation. C'était comme en France, vous avez une Rolls-Royce. Donc elles étaient rares, elles étaient prisées, et il y avait la mule du roi, qui était un peu comme la grosse voiture des présidents aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours intéressant de regarder l'origine des mots que vous trouvez dans la Bible, rien n'est laissé au hasard. Adonia avait fait la fête près de la pierre de Zoélète. Zoélète, ça veut dire serpent. Et puis, à côté de Ein Rogel, qui est la fontaine du calomniateur. Alors que David indique à Nathan de le faire descendre pour le nommer roi à Guillon, qui était en fait la rivière du paradis. D'un côté, on voit l'imposteur qui nous fait rappeler le serpent qui veut prendre le pouvoir, et de l'autre, il y a la rivière du paradis où le vrai roi va être nommé. Encore une fois, quand vous lisez la parole, vous devez chercher où est Christ. Et ici, c'est très clair qu'on l'a déjà dit, que David, c'est un type de Christ, une préfiguration de Christ qui doit régner dans votre vie. Alors qu'il y a un autre, un usurpateur, qui veut prendre sa place et qui aimerait que vous obéissiez, que vous le couronniez comme roi. Mais Dieu contrôle les choses et si vous l'écoutez, vous allez suivre Jésus et non pas Satan. Benaïaou, fils de Yehada, répondit au roi, verset 36, « Amen, qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Comme l'Éternel a été avec mon Seigneur le roi, qu'il soit avec Salomon et qu'il élève son trône plus que le trône de mon Seigneur le roi David. » Prière qui va être exaucée. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec le prophète Nathan, Benaïaou, fils de Yehoiada, les Kérétiens, les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le menèrent à Guillon. Là, il est loin par le sacrificateur Tsadok, le prêtre, le grand prêtre. Il prit la corne d'huile dans la tente et donna l'onction à Salomon. On sonna du cor et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon ». C'est intéressant, il y a plusieurs offices, plusieurs ministères. Le ministère de roi, le ministère de prêtre, le ministère de juge. Et ils sont toujours séparés, sauf en la personne de Jésus-Christ. Montesquieu parlait de la séparation des pouvoirs pour que le gouvernement soit juste, ou l'exécutif, le législatif et le judiciaire devaient être séparés. Il va y avoir qu'une seule personne qui soit à la fois roi, juge et prophète, et c'est Jésus. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et donna l'onction à Salomon. On sonna du cor et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta derrière lui, le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Il y a du monde qui bouge, ça fait trembler la terre. Et là, verset 41, on voit qu'Adonia entendit cela, ainsi que tous les invités qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son du cor, c'est un militaire qui était habitué à tendre l'oreille dès qu'il entendait la trompette qui indiquait des mouvements militaires. Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Adonia, viens, car tu es un homme de valeur et tu apportes de bonnes nouvelles. Ça, c'est de la méthode Coué, dis-nous des bonnes nouvelles. Jonathan répondit en ces termes à Adonia, c'est-à-dire que notre Seigneur, le roi David, a établi Salomon roi. L'aura envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, le prophète Nathan, Benayahu, fils de Yehoiada, les chrétiens, les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan lui ont donné l'onction royale à Guillon, de là ils sont remontés tout joyeux et le tumulte s'est répandu dans la ville. C'est là le bruit que vous avez entendu. Donc la nouvelle parvient à Adonia et ses invités. Salomon s'est même assis sur le trône royal, verset 47, et les serviteurs du roi sont venus bénir notre Seigneur le roi David en disant que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève ton trône plus que ton trône. Et le roi s'est prosterné sur sa couche. On pense qu'il ne pouvait plus sortir de son lit, donc il se prosterne sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a placé quelqu'un sur mon trône et mes yeux ont pu le voir. » Tous les invités d'Adonia se mirent à trembler. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Les amis ne sont plus les amis. Lorsque le pouvoir a changé de main, c'est là qu'on... On peut souvent compter ses vrais amis lorsqu'on est dans la difficulté. Et là, on s'aperçoit que tous les gens qui étaient autour de lui n'avaient qu'en vue leur propre intérêt. Là, ils se disent, c'est temps de partir vite et d'aller sans doute prêter allégeance au roi Salomon. Et Adonia, dans sa crainte à l'égard de Salomon, parce qu'il savait ce qu'il aurait fait à Salomon s'il avait pris le pouvoir, il pense que Salomon veut le tuer. Il se leva pour aller saisir les cornes de l'autel. On fit ce rapport à Salomon. Voici qu'Adonia, par crainte du roi Salomon, a saisi les cornes de l'autel en disant « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir ton serviteur par l'épée. » Ça, c'était un... C'était pas une prescription qu'on trouve textuellement dans la Bible, mais c'était une croyance dans le monde antique qu'en prenant les cornes de l'autel, en allant dans le lieu saint, on était préservé de la punition de la mort. Un peu comme dans certaines églises, c'est pour ça que souvent les réfugiés politiques, lorsqu'il y a des manifestations, vont dans les églises, ils occupent les églises, c'est parce qu'il y avait une certaine considération. On n'allait pas faire violence aux gens qui s'approchaient de Dieu, même s'ils étaient des ennemis. Il y avait en fait un système de ville de refuge qui était établi bibliquement, où lorsqu'on a été innocent d'un crime, on pouvait aller se faire protéger des parents de la victime en allant dans cette ville qui est, et là les autorités n'avaient pas le droit de vous faire périr et les parents ne pouvaient pas vous toucher, vous étiez protégés. Et donc il saisit les cornes de l'autel. L'autel, c'était un carré avec quatre pointes qui sortaient des côtés. Il s'accroche, il se rapproche de Dieu par intérêt, pas par conviction ou par consécration. Il court pour sa vie, il va se réfugier là. Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir par l'épée. Verset 51. Et Salomon, très magnanime, lui dit, s'il se montre un homme de valeur, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais si du mal se trouve en lui, il mourra. Salomon se montre déjà plein de grâce. Il fait grâce à son frère qui voulait prendre le pouvoir et le tuer. Son demi-frère, je devrais dire. Et il lui donne une période de grâce, un temps de grâce. S'il ne cause pas de problème, s'il n'essaye pas de manipuler les choses, s'il n'essaie pas de comploter, alors on ne lui touchera pas un de ses cheveux, il restera vivant. Mais, par contre, dans le cas contraire, il sera mis à mort, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » La grâce de Salomon et cet autel où il s'accroche, ça nous fait penser à la grâce de Dieu et à la croix. Aujourd'hui, on va pas se réfugier en attrapant les cornes de l'autel, mais on peut à tout instant venir à la croix, demander pardon et recevoir la grâce de Dieu, de recevoir le pardon de Dieu.